France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de Netflix. Un logo rouge sur fond noir et un son immédiatement reconnaissable. En 2014, une plateforme américaine de films et séries en ligne du nom de Netflix arrive en France du jamais vu. Le nouveau phénomène de streaming bouscule les codes du cinéma et change nos habitudes avec une formule unique, un mélange de documentaires choc, de séries originales et de films oscarisés réalisés par des pointures. Il suffit d'un abonnement et le catalogue semble illimité, mieux personnalisé. Si bien qu'à travers le monde, nous sommes désormais des centaines de millions d'abonnés à suivre ces tendances nouvelles dont Netflix est le prince. L'essor semble donc fulgurant, celui d'une licorne de la Silicon Valley, ces startups qui réussissent du premier coup. Et pourtant, Netflix existe en réalité depuis 1997. Ce n'est alors qu'un simple service de livraison de DVD à domicile imaginé par deux associés et qui peine à décoller. Cette genèse, plus laborieuse qu'on ne l'aurait imaginé, pose finalement une question. Que sait-on vraiment de ce géant qui partage si intimement nos vies? Notre invitée aujourd'hui, Marjolaine Boutet, historienne et spécialiste des séries télé. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Sharon Oury, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Tout est fin prêt, effectivement. Émilie, les affiches sont posées, le tapis rouge est déroulé. L'ensemble du jury est arrivé hier soir. Un jury présidé, je vous le rappelle, par le réalisateur espagnol Pedro Almodovar, ce qui augure d'un palmarès peut-être un petit peu plus rock'n'roll. Alors on aurait aimé...
Printemps 2017, la 70e édition du Festival de Cannes commence. Mais la présence d'un invité surprise sème la discorde. La plateforme américaine Netflix est autorisée à présenter deux films en compétition officielle, s'il vous plaît, Okja et The Meyerowitz Stories. Ces deux productions ne sont même pas sorties en salle, contournant ainsi le principe national de chronologie des médias, qui impose normalement qu'un film soit passé par le grand écran 3 ans avant sa diffusion en ligne. Alors, Netflix privilégié? Il n'en faut pas plus pour lancer la controverse. Tour à tour, plusieurs personnalités du milieu prennent position. Pour le réalisateur Bertrand Tavernier, c'est une insulte au cinéma français. Agnès Varda et Pedro Almodovar rappellent, eux, que le public doit pouvoir découvrir les films en salle. Jean-Luc Godard également se dresse contre cette intrusion. Devant cette levée de bouclier qui commence, le directeur des programmes de Netflix, Ted Sarandos, monte au créneau. Nous avons choisi de nous tourner vers le futur du cinéma. Si Cannes préfère rester coincé dans l'histoire, très bien. Des mots forts que le délégué général du festival, Thierry Frémaux, soutient. Le cinéma français doit évoluer. Mais tandis que les salles obscures tendent à se raréfier sous la pression des nouvelles technologies, Netflix saurait-il incarner autre chose qu'une menace? 2 ans après la polémique, lors de la 72e cérémonie diffusée sur Canal+, Édouard Baird, en maître d'ouverture, relance les hostilités contre Netflix.
C'est inouï d'être là. Et pourtant, ça existe encore. Chant forélien, ça existe, la salle de cinéma. Ce besoin d'être ensemble. Parce que le cinéma, ça n'est pas juste des images meilleures que d'autres, des images pures contre l'impur. Ça n'est pas juste le grand écran contre le petit, lever les yeux plutôt que les baisser. Le cinéma, c'est la salle de cinéma. C'est être ensemble, quoi, c'est vrai. Sortir de chez soi, ce miracle-là, plutôt que de rester là, à manger des pizzas en regardant Netflix, ou bien regarder sa pizza, ou bien se regarder en train de regarder sa pizza. Le cinéma, c'est ça, c'est le collectif, c'est le groupe, c'est la chaleur humaine. Ne rentrez pas chez vous ce soir. Bienvenue à la 72e cérémonie, au 72e Festival de Cannes, tout simplement.
Oui, il y a les salles, mais il y a aussi Net, pour Internet. Et Flix, pour film en argot anglais, d'où Netflix. Mais ce nom aujourd'hui célèbre existe en réalité depuis 1997. Oui, Netflix naît de l'idée novatrice pour l'époque de deux associés d'ouvrir une plateforme de location de VHS livrée à domicile. L'un s'appelle Mark Randolph, l'autre Reed Hastings. Randolph est entrepreneur, fils d'un ingénieur nucléaire d'origine autrichienne et, par ailleurs, arrière-petit-neveu de Sigmund Freud. Hastings est un ingénieur informatique dont le père était avocat pour l'administration de l'ex-président Richard Nixon. Dans cette Amérique à la pointe de la technologie, les deux grandissent en rêvant d'innovation. Mais il faut attendre août 96 pour qu'ils se rencontrent. Hastings a 37 ans, il est PDG de la société informatique Pure Software et décide de racheter Atria, une autre compagnie de logiciels où travaille Randolph, de 2 ans son aîné. Le courant passe bien, les deux hommes imaginent alors Netflix. Nous sommes à l'aube des années 2000, objet de tous les fantasmes futuristes. À cette époque, l'essor d'Internet fait naître mille et un espoirs. À quoi ressemblera le 21e siècle sous le règne des ordinateurs? Vivrons-nous dans un monde virtuel façon Matrix? Et dans cette ébullition, un secteur se pose également de sérieuses questions sur son avenir, le cinéma. Pour le moment, à tous les coins de rue, on croise encore des salles de projection, mais surtout des vidéoclubs. Ces boutiques éclairées au néon et ouvertes tard dans la nuit, où l'on peut venir louer des films pour les regarder chez soi. Dès 1983, la RTBF, radio belge de service public, présente ses vitrines d'un nouveau genre.
Les clients des vidéoclubs sont rarement des cinéphiles, mais plutôt des gloutons de l'image. Certains louent jusqu'à 3 ou 4 films sur 24 heures. Le vorace de la vidéo avale de préférence ce qu'on ne lui montre jamais ou rarement à la télévision, les films d'horreur par exemple.
L'idée révolutionnaire de Hastings et Randolph, c'est donc de pouvoir louer ces fameuses vidéocassettes, mais en les commandant par Internet, ce qui permettra de les recevoir chez soi dans sa boîte aux lettres. Sauf que le binôme rencontre un problème de taille. Les VHS sont trop lourdes. Le poids d'une seule vidéo fait grimper le coût de la livraison à 4 $ aller-retour, pas rentable. Heureusement, à l'approche du deuxième millénaire, une nouvelle technologie commence à faire doucement parler d'elle, le DVD. Son principe, un film complet, contenu sur une simple galette, petite et pas encombrante. Tout juste développé, ces films compacts sont encore rares à la vente. Alors Hastings fait un test avec de vieux albums de musique, 32 cents le colis, et ça marche. Il est aux anges, Randolph et lui vont pouvoir donner vie à leur idée. Hastings revend sa première société de logiciels Pure Software pour 75 millions de dollars et investit avec Randolph dans leur nouveau business. Ensemble, ils louent des bureaux et embauchent quelques personnes. Et le 14 avril 1998, après des mois de préparation, Netflix fait son apparition sur la toile en tant que premier site du genre, un catalogue virtuel de 925 titres à portée de boîte postale, soit presque tous les DVD en circulation aux États-Unis à cette période. Dans une conférence du 23 septembre 2019, Randolph se replonge dans les coulisses de cette journée de lancement qui ne s'est pas vraiment passée comme prévu.
Nous étions tous réunis dans ma salle de conférence et nous sommes tous restés là, attendant avec impatience que quelque chose se passe. Et tout d'un coup, ding ! Notre première commande ! Ding, ding, ding ! 3 autres commandes ! Nous avons applaudi, nous nous sommes donné des tapes dans le dos, nous allions devenir riches ! Nous étions si excités, nous trinquions et faisions la fête et... Tout à coup, nous avons remarqué que cela faisait un moment que la cloche n'avait pas sonné. Eh bien, dans les 10 premières minutes, nous avions planté tous nos serveurs. Alors, mon souvenir du 14 avril 1998 est-il celui de moi trinquant à mon succès avec un verre de champagne? Non! Je me rappelle ce long et difficile premier jour.
Malgré ce léger incident, le soir même, Netflix est opérationnel, récoltant une centaine d'abonnements en quelques heures. L'aventure peut enfin commencer à la frontière entre deux époques. Fin des années 90, début des années 2000, le monde bascule dans un nouveau millénaire, une ère 2.0, dont l'horizon paraît infini et où tout semble possible. Netflix, la petite entreprise de 30 salariés, en compte désormais 100 et pas moins de 300 000 abonnés, ainsi que plusieurs entrepôts à travers les États-Unis. Bref, c'est une affaire qui roule, une success story à l'américaine. Du moins, en apparence. Car en vérité, malgré les milliers de commandes, Netflix est déficitaire. 57 millions de dollars de pertes rien que pour l'année en cours. Alors pour survivre, il faut trouver des financements d'urgence. Hastings et Randolph décident alors de se tourner vers un colosse du divertissement, Blockbuster. Depuis 1985, cet exploitant de vidéoclub règne en maître sur le marché. Il possède un empire international de 9000 magasins de location à travers le monde et pèse 6 milliards de dollars. Dans son livre « La règle, point d'interrogation, pas de règle, point d'exclamation », Reed Hastings revient sur ce rendez-vous du début 2000 que Marc et lui obtiennent au siège de leur plus grand concurrent.
Nous venions de franchir les portes d'une immense salle de réunion située au 27e étage de la Tour Renaissance, à Dallas, au début de l'année 2000. Le PDG de Blockbuster, John Antioco, qui avait une réputation de fin stratège, conscient qu'un Internet omniprésent et super rapide bouleverserait bientôt l'industrie, nous a réservé un accueil amical. Barbichette, poivre et sel, costume de marque, il nous est apparu tout à fait détendu. Pour ma part, j'étais à bout de nerfs. Après quelques minutes d'échange informel autour de l'imposante table en verre, Marc et moi proposions à Blockbuster d'acheter Netflix et de nous laisser développer et gérer sa branche Blockbuster.com, qui permettrait la location de vidéos par Internet. Antioco nous a écoutés avec attention en hochant fréquemment la tête, puis il a demandé « Mais quelle somme Blockbuster devra-t-il débourser en échange de Netflix ?» Quand nous lui avons suggéré le montant de 50 millions de dollars, il nous a opposé un refus catégorique. Marc et moi avons quitté les lieux dépités.
Blockbuster leur aurait même ri au nez. Mais selon Hastings, cet échec s'avère déterminant pour la suite de Netflix, car il donne envie à l'équipe de prouver sa valeur et de se retrousser les manches. Résultat, dès le 23 mai 2002, la toile étant de plus en plus performante, Netflix atteint les 600 000 membres et entre en bourse. Le petit nouveau de la Silicon Valley a su anticiper le tournant du numérique. Bien, mais comment Hastings et Randolph s'y sont-ils pris pour passer de la banqueroute à la croissance? D'abord, dès les années 2000, les lecteurs de DVD sont de plus en plus abordables pour les foyers américains. Alors, avoir misé sur ces formats commence à porter ses fruits. Ensuite, le modèle économique de Netflix, qui copiait jusque-là celui des vidéoclubs conventionnels, change radicalement de stratégie en adoptant un abonnement illimité, un prix mensuel fixe et autant de DVD souhaités, à condition d'en rendre un pour recevoir le suivant. Résultat, 120 000 clients supplémentaires en avril 2000. Hastings et Randolph lancent également un algorithme de recommandation de films en fonction de l'historique de location des abonnés. Cinématch. Vous savez, ce logiciel qui vous dit « Nous venons de mettre en ligne un film ou un doc qui devrait vous intéresser ». Et nous assistons alors aux prémices du Netflix que nous connaissons. À la télévision américaine, pendant des années, le site fait la promotion de ses prix imbattables dans des publicités qui mettent déjà en avant l'image d'une marque à la fois décontractée et dans l'air du temps.
Il existe un meilleur moyen de louer des films, autant que vous en voulez, pour seulement $17.99 par mois et sans aucun frais de retard. Allez sur Netflix.com, faites une liste des films que vous voulez voir et en à peu près un jour ouvrable, vous recevrez 3 DVD. Gardez-les aussi longtemps que vous le souhaitez, sans frais de retard. Et quand vous avez fini, regardez, une enveloppe prépayée. Renvoyez-en un et ils vous enverront un autre film de votre liste. C'est très simple.
Netflix. Tous les films que vous voulez. Seulement $17.99 par mois et pas de frais de retard.
Mais en 2001, une crise frappe de plein fouet la finance américaine. Il y a plus d'une décennie que les investisseurs misent frénétiquement sur les entreprises technologiques émergentes dont le potentiel de croissance semble illimité. Mais ils ne s'aperçoivent pas que certains résultats annuels sont en fait falsifiés, gonflés. Scandale après scandale, l'emballement spéculatif laisse place au doute. Les actions sont massivement revendues et leur prix dégringole, emportant dans leur chute le reste du marché américain. C'est la fameuse bulle informatique qui éclate. En juin 2002, le Trésor de France 2 interviewe deux courtiers de Paris qui continuent de déplorer les effets du krach boursier, à présent étendu sur tout le marché européen.
Paris, ce matin, dans cette société de bourse, on ne quitte plus les écrans des yeux, toutes les courbes sont à la baisse. L'indice des 40 plus grosses valeurs françaises est en chute libre, moins 5% dès l'ouverture.
Pratiquement tout le marché baisse.
Le marché est au plus bas depuis plus de 4 ans et on a enfoncé des plus bas
du 11 septembre.
Septembre au moment des attentats.
On est au plus bas des plus bas des plus bas. Ça craque aujourd'hui.
Netflix accuse le coup, ses comptes sont au plus bas. Mais de nouveau, ses fondateurs y voient l'opportunité de se réinventer. Selon Hastings, c'est grâce à cet épisode marquant qu'il prend l'une des meilleures décisions de sa vie professionnelle licencié un tiers de ses effectifs. Bon, d'abord, le PDG redoute cette confrontation. Des amis vont devoir partir et le reste lui en voudra sûrement de cette trahison. Et sans surprise, le jour venu, il fait face aux larmes et à la colère. Hastings est inquiet. Sauf qu'une semaine plus tard, il en arrive à un constat aussi improbable que contre-intuitif. Non seulement l'humeur joyeuse semble revenue, mais au siège, tout le monde bouillonne d'idées originales et d'enthousiasme, au point de ne plus compter ses heures. Le start-upper en herbe n'hésite pas à en conclure qu'il s'agit de l'effet positif des choix tactiques qu'il a fait à cette occasion. Oui, il se souvient se tenir face à la liste des employés sans réussir à désigner de mauvais éléments à virer. Puis finir par classer les équipes selon, d'un côté ses membres les plus performants et créatifs qui se démarquent en tout point, de l'autre, même s'ils sont bons dans leur métier, celles et ceux qui ne sortent pas du lot, une sorte de darwinisme d'entreprise. C'est Reed Hastings, refuse de valoriser le principe du licenciement. Il se targue en revanche d'avoir trouvé à ce moment-là la pierre angulaire du Netflix de demain, du nom de densité de talent, un système de tri des salariés selon qu'ils sont remarquables ou acceptables. Un système qu'il développe fièrement dans son livre.
Dans la plupart des organisations, il existe des employés formidables et d'autres plus moyens. Ces derniers ont besoin d'être dirigés et on compte sur les stars pour se donner à fond. Chez Netflix, c'est différent. Nous vivons dans une bulle d'excellence dans laquelle tout le monde est ultra performant. En réunion, on a l'impression qu'avec tout le talent et la puissance des cerveaux rassemblés dans la pièce, on pourrait générer suffisamment d'électricité pour tout le bureau. Les gens se remettent en question les uns les autres. Ils construisent des arguments et chacun pris séparément est presque plus intelligent que Stephen Hawking. Voilà pourquoi on parvient à en faire autant à une telle vitesse ici. À cause de la densité de talent complètement dingue.
À la tête du nouveau vidéoclub à domicile, on est enivré par cette effervescence. Netflix baigne dans une atmosphère électrisante, alimentée par des cerveaux hyperactifs. Mais cette excellence n'est que la première étape d'une vision bien plus large. Prochain mantra à faire adopter, liberté et responsabilité. Aujourd'hui, l'histoire de Netflix.
Affaires sensibles sur France Inter.
Crise en série, licenciement, remontada. Avant son succès, Netflix connaît une histoire mouvementée aux multiples rebondissements. La plateforme américaine de VOD créée par Reed Hastings et Mark Randolph revient de loin. Et ce n'est pas fini. Pour Hastings, après la crise économique de 2001, ce qui n'était pas une évidence hier, lui semble très clair aujourd'hui. Et il le dit. Le jour de ce rendez-vous à Dallas, Blockbuster avait tout en main. Pourtant, nous avions quelque chose qu'il n'avait pas. Très peu de règles. Le but affiché du cofondateur de Netflix est de faire souffler effectivement un vent de liberté sur le cinéma autant que sur la politique d'entreprise. D'ouvrir les vannes. Oui, mais comment ? Une fois les talents appâtés par les meilleurs salaires du marché, il faut donner carte blanche à tous les niveaux pour une flexibilité maximale dans un monde en perpétuelle évolution, à l'image d'un Internet toujours plus rapide et incertain. Et comment applique-t-on une telle culture d'entreprise ? Erin Meyer, proche de Hastings, y répond des années plus tard sur le plateau de France 24.
Alors, ma leçon était que la plupart d'entreprises aujourd'hui traitent leurs employés comme les enfants. Si vous voulez acheter un ordinateur, il faut demander permission. Si vous voulez commencer une nouvelle initiative ou prendre vacances, il faut demander l'accord. Mais Netflix, ils traitent leurs employés comme des adultes. Netflix, comme ils ont très très peu de règles et leur politique de dépenses est faite ce que vous croyez est meilleur pour l'entreprise.
Netflix, parlons du principe que ces talents sont dotés d'un discernement sans faille. Mais l'effet pervers de cette doctrine, c'est que les talents en question doivent se démarquer en prenant des risques, tout en restant absolument pertinents. Sinon, c'est la porte. Hastings le dit lui-même d'ailleurs. Si vos salariés choisissent de profiter abusivement de la liberté que vous leur octroyez, il faut les renvoyer avec perte et fracas pour que tout le monde en comprenne bien les conséquences. Comme ça, c'est clair. Et pour épingler les moutons noirs, il invente un keeper test qui permet, en une question, de déterminer l'avenir d'un employé. S'il annonçait devoir partir, imagines-tu le retenir ? Eh bien, c'est selon. Oui, il reste, ou non, et auquel cas, il part dans la minute. Or, même si c'est avec une généreuse indemnité, impossible d'échapper à un certain sentiment d'insécurité. D'autant que Netflix incite également les employés à se critiquer les uns les autres, sans détour. Aujourd'hui, on sait, grâce à des témoignages plus récents, que cette directive a favorisé, selon les mots d'anciens salariés, une honnêteté brutale et une peur constante. Crainte d'être dévalué, crainte d'être exclu. Une ex-recruteuse pour Netflix raconte « Tous les matins dans l'ascenseur à 8h, je ne respirais plus. J'étais persuadé qu'à l'ouverture des portes, mon patron m'attendrait pour me dire que j'étais viré. » Stress, fatigue, exigence de travail, ce climat finit également par peser sur Mark Randolph. D'autant que ce dernier est déjà préoccupé par les finances de l'entreprise, toujours très instable. Au début des années 2000, la plateforme réussit encore à lever des millions de dollars de fonds, mais n'est pas capable de les rembourser. Alors, en 2003, d'un commun accord, Randolph quitte Netflix, même s'il en reste actionnaire, et Hastings en devient son seul et unique PDG. Une séparation en bons termes, à propos de laquelle Randolph se confie en 2019 dans son livre « That Will Never Work ».
En 2003, Netflix existait depuis déjà assez longtemps pour écrire sa propre histoire, David contre Goliath. Et il semblait que David pouvait avoir une chance. Netflix avait grandi, mais moi aussi j'ai pris conscience que j'avais grandi. J'aimais toujours l'entreprise, je l'aimais avec la passion que seul un parent peut connaître. J'ai redressé des torts, expédié des ennemis, et j'ai toujours poussé l'entreprise à réussir encore plus. Mais alors que les chiffres trimestriels venaient mécaniquement chaque année, je me suis lentement rendu compte que même si j'aimais l'entreprise, je n'aimais plus y travailler.
Ce moment charnière dans la vie de Randolph suit les évolutions d'Internet. C'est encore récent, mais depuis les années 2000, une technologie centrale commence à se démocratiser, le haut débit. Grâce à lui, dans tous les foyers munis d'un ordinateur, on peut désormais lire des contenus audiovisuels directement en ligne, sans support matériel. Cette simple innovation couvre une véritable révolution. Et ça ne rate pas. En 2007, alors que le piratage occupe déjà un marché parallèle grandissant, les grands groupes lancent des offres streaming officielles, y compris Netflix. 10 ans après sa création, la plateforme fête le milliard de DVD loués depuis sa création. Et elle en profite pour dire adieu au concept de vidéo par courrier, au profit de la vidéo en ligne. Nous assistons alors à l'éclosion du Netflix actuel, tout comme à l'émergence de nouvelles habitudes de consommation vidéo dans le monde. le logo rouge, connaît dès lors une croissance exponentielle. L'ultra-flexibilité tant promis par Hastings aura fini par payer. Tandis que Blockbuster, le mastodonte qui avait refusé de racheter Netflix à ses débuts, se déclare en faillite dès 2010. Pendant ce temps, le nouveau roi du VOD, la vidéo à la demande, s'exporte au Royaume-Uni, Pays-Bas, Autriche, Belgique, Allemagne et, en 2014, France. Mais l'Hexagone est le berceau du cinéma et tient à faire respecter certaines règles dans ce domaine. Parmi elles, le fameux principe d'exception culturelle, né en 90, qui protège les créations françaises, notamment par des quotas de diffusion dédiés à la diversité artistique locale. En pleine promotion pour Netflix France, sur France 24, Hastings revient sur l'accueil du cinéma français.
Vous vous sentez le bienvenu en France ?
Oui, je pense que nous sommes très bien accueillis par les consommateurs. Ils veulent des programmes sur demande. Ils veulent pouvoir regarder les programmes quand ils le veulent, où ils le veulent, quel que soit l'écran. Maintenant, du point de vue des concurrents, on n'est pas si bien accueillis que cela.
Parlons encore un peu de la France et de son exception culturelle. Comment la définiriez-vous ?
Pour moi, c'est une culture très fière qui veut exporter sa culture et qui veut renforcer sa culture. Et nous adorons cela. Nous sommes un des plus grands exportateurs de films français. Netflix est une entité tellement internationale et nous pouvons accompagner les conteurs français, les scénaristes français à partager leurs histoires. Dans d'autres pays, nous serons donc de grands amis du contenu français.
En France, la bataille d'Hastings ne fait que commencer, car il se heurte non seulement à l'hostilité d'un cinéma traditionnel soudé, mais également à de sérieux concurrents locaux comme Canal+, qui est déjà implanté dans le pays. Sans parler du replay que les chaînes TV déploient, les unes après les autres. Mais Netflix a des atouts uniques. Une offre illimitée et abordable sans engagement. Des algorithmes de plus en plus intuitifs et un catalogue international. Mais surtout, et c'est le cœur de son identité, des productions originales développées directement dans ses studios. Alors bien sûr, en France, Canal+ produit aussi ses propres programmes pour la télé, et depuis 2005. Et dans le monde, depuis 2011, une chaîne câblée du nom de HBO marque les esprits avec sa série devenue l'un des plus grands succès populaires contemporains, Game of Thrones. Mais Netflix ne se laisse pas impressionner et frappe fort, dès 2013 avec House of Cards, un thriller politique américain. La plateforme ne communique jamais sur ses audiences. Mais c'est une certitude, cette première prouesse en tant que producteur assoit sa notoriété. D'autant que Netflix inaugure un nouveau mode de diffusion et de consommation des séries, le binge-watching, qui diffuse tous les épisodes d'une saison, d'un seul coup, ce qui évidemment est un immense avantage pour le public. À partir de House of Cards, Netflix est inarrêtable. Orange is the New Black, sur des femmes incarcérées, sort à l'été 2013, encensé par les critiques. En 2015, Sense8, science-fiction des sœurs Wachowski, permet d'ouvrir Netflix aux séries d'auteurs. Mais c'est le 15 juillet 2016 que la plateforme confirme son statut de leader, avec la sortie d'une série sur les aventures paranormales de quatre enfants dans les années 80, devenue un véritable phénomène culturel, Stranger Things. Écho sur le plateau de Quotidien le 22 septembre 2016.
Stranger Things a été la série digitale la plus regardée de tous les temps en une semaine aux États-Unis. C'est en grande partie dû au phénomène Madeleine de Proust pour les trentenaires et quarantenaires. C'est un véritable hommage à la pop culture des années 80, à Poltergeist, aux Goonies, à Alien, à Star Wars ou bien évidemment à Steven Spielberg et E.T. l'extraterrestre. L'équipe de E.T. l'extraterrestre version 2016 est sur le plateau dans la série. Il s'appelle Eleven, Dustin et Lucas. Les trois enfants de Stranger Things sont dans le quotidien.
2016, The Crown. Énorme. 2017, La Casa de Papel. Branché. 2018, Altered Carbon. 2019, The Witcher. 2021, Squid Game. Impressionnant. La liste des séries originales à succès de Netflix est interminable et hisse la marque au rang d'influence culturelle majeure. Avec ses sujets sensibles comme la sexualité ou la mort, Netflix fédère un large public et devient même un verbe, une attitude, une activité. Mais le géant du divertissement ne s'en contente pas et est mis en parallèle sur un cinéma fort à la poursuite de reconnaissance officielle. Le 4 mars 2018 à Los Angeles, la stratégie paye. Netflix sort de la 90e cérémonie des Oscars avec une statuette pour Icarus, un documentaire de 2 heures au relent de thriller sur les coulisses de dopage dans le sport. L'année suivante, la plateforme continue son ascension avec Roma, le film américano-mexicain en noir et blanc d'Alfonso Cuarón, qui reçoit une pluie de récompenses. Lion d'or, Oscar, Golden Globes, 130 distinctions en tout. Hastings vit ses succès comme autant de revanches sur le grand cinéma, notamment celui de Cannes, dont il se sent exclu. Mais le plus important, c'est que cette victoire résonne dans le cœur des Mexicains eux-mêmes. Oui, reconnaissant que ce film sur la vie d'une employée de maison de service d'une famille aisée de Mexico dans les années 70 parle enfin des inégalités de classe dans le pays. En février 2019, la CGTN, chaîne chinoise francophone, couvre l'événement.
Roma, lu à l'envers, devient le mot espagnol « amor » qui signifie « amour ». Et c'est exactement ce sentiment que cette foule de Mexico a exprimé dimanche lors d'un événement célébrant les 10 nominations aux Oscars de Roma, organisé par le réalisateur du film, Alfonso Cuarón.
À cette époque, Netflix cumule 167 millions d'abonnés à travers 190 pays et attire des dizaines de projets de la crème du cinéma qui voient en ce nouveau producteur un allié audacieux. John Woo, Martin Scorsese, Noah Baumbach, Shonda Rhimes. Tous ces trophées, Hastings les doit surtout à son directeur de programme, Ted Sarandos. Dans les jeunes années de la plateforme, c'est l'homme qui décide déjà s'il faut commander 60 ou 600 exemplaires de tel ou tel DVD. En 2015, c'est lui qui achète le script de Stranger Things. Et c'est encore lui qui repère Icarus. Et c'est à lui, enfin, qu'en 2023, Hastings décide de céder Netflix. Fin 2019, la crise sanitaire du Covid-19 met tout le monde sous cloche et les sites de streaming explosent, alors tous les records. Dépassant les 230 millions d'abonnés en 2022, Netflix en profite pour développer ses autres formats. Télé-réalité, programmes familiaux, dessins animés japonais, jeux vidéo et même séances de médiation. Vive la crise! Mais il faut rester vigilant. Celles et ceux qui ne se sont pas inscrits pendant la pandémie ne le feront sans doute jamais. La multinationale a peut-être, en gros, épuisé son réservoir de spectateurs. Et à l'hiver 2022, pendant que YouTube, Disney+, ou encore Salto s'ajoutent à la concurrence, Netflix stagne. Son audience voit donc arriver ce que Hastings avait promis de ne jamais proposer, une offre avec publicité. Parce qu'il le sent, il doit tourner la page. Alors, en janvier 2023, 20 ans après son associé Mark Randolph, lui aussi quitte le navire. Et il confie le bébé à ses deux bras droits, le fameux Ted Sarandos, directeur de programme, et Greg Peters, un homme d'affaires discret. Aujourd'hui, comment Netflix va-t-il réussir à se réinventer? D'ailleurs, le peut-il vraiment et indéfiniment? Ou alors, l'enthousiasme pour l'innovation perpétuelle, née avec le millénaire, connaît-elle ces dernières heures, remplacée par des questions plus profondes sur la place des écrans dans nos vies? À suivre.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire de Netflix avec notre invitée Marjolaine Boutet. Bonjour.
Bonjour.
Historienne et spécialiste des séries télé et par ailleurs autrice du livre 1000 séries à voir sans modération chez Glénat. Je crois que ça sort à Noël.
Ça sort à Noël et c'est écrit avec mon co-auteur Pierre Cérizier.
Bien, vous avez bien fait de le préciser. Alors, on l'a vu, le succès de Netflix est dû au tournant du streaming, mais il est aussi en grande partie dû aux séries, notamment originales. Or, dans les années 2000, si mes souvenirs sont bons, les séries ont déjà un certain succès à la télé. Donc il fallait vraiment inventer quelque chose. Quel a été le principal levier pour Netflix de la réinvention, à votre avis ?
C'est effectivement la délinéarisation, c'est-à-dire la promesse de pouvoir regarder tout ce qu'on veut, ou alors, en tout cas, c'est la promesse, à n'importe quelle heure et sur n'importe quel écran. Et ça correspond vraiment à un mode de vie aussi qui devient de plus en plus nomade, à des formats d'écran qui deviennent de plus en plus différents, et à cette nouvelle génération qu'en anglais on appelle les cord cutters, c'est-à-dire ceux qui coupent le câble de l'antenne télévisée pour ne regarder des contenus que via Internet. Et voilà. Et donc il y a vraiment cette promesse-là de Netflix. Et puis effectivement, à partir de 2013 et de House of Cards, ils ont aussi l'intelligence de... Ils ont un catalogue existant d'œuvres qu'on connaît, qu'on a envie de voir et de revoir, des films cultes. Je pense pour ma génération, par exemple, à Dirty Dancing, que j'ai dû voir une centaine de fois. Mais là, ils proposent aussi, à partir de 2013, des séries originales et des séries originales qui jouent sur les mêmes codes que HBO, qui proposait déjà Les Sopranos, Six Feet Under, The Wire.
Beaucoup de séries, beaucoup, beaucoup.
Beaucoup de séries très qualitatives. Et avec House of Cards, ils font venir David Fincher, qui a réalisé notamment un film sur la vie, enfin fantasmée en tout cas, de Mark Zuckerberg, et une série politique. À un moment où on est en pleine Obama-mania, il nous invente ce personnage incroyable de Frank Underwood, qui vient d'une série britannique certes, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas, et qui est ce personnage de politicien corrompu, prêt à tout pour accéder au pouvoir. Et donc voilà, il propose quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, et c'est ça qui fait partie de ces produits d'appel pour qu'on s'abonne et qu'ensuite qu'on regarde évidemment des programmes un peu moins qualitatifs, mais qui ont l'avantage d'être disponibles à n'importe quel moment.
Et donc il y a un réflexe Netflix, un réflexe plateforme, alors qu'on a des plateformes françaises, Canal+, Salto. Qui fait le réflexe Netflix ? Question de notoriété, simplement ?
Je pense que c'est une question de notoriété. Je pense aussi que c'est cette idée de catalogue illimité. Et ils ont, encore une fois aussi, des produits phares qui arrivent à être dans l'air du temps. Je crois que c'est ça qui fait la force de Netflix. Vous parliez de Stranger Things, qui est quand même cette idée de jouer sur la nostalgie des années 80. Alors, il y a d'autres séries qui avaient fait ça un petit peu avant, The Americans, par exemple. Mais Stranger Things, ça s'adresse vraiment au grand public, au mainstream, à la fois aux ados, mais aussi à leurs parents et à la génération au milieu, avec voilà cet effet nostalgique des vélos et de ce monde déconnecté d'Internet.
Ouais, y a aussi la transgression. Squid Game, par exemple, est totalement transgressif. Moi, j'avoue que, notamment le premier épisode de la saison avec la première tuerie, peut-être la chose la plus violente que j'ai vue au cinéma. Alors, là, il y a une transgression. Là.
Oui, il y a une transgression. Il y a surtout cette force de Netflix, et c'est là qu'on mesure aussi la force culturelle, par exemple, des séries HBO, c'est-à-dire que même les gens qui ne l'ont pas vu en parlent.
Ouais.
Et Squid Game, c'est devenu un phénomène dans les cours d'école, ça a beaucoup fait parler dans les médias, mais donc d'enfants qui, pour la plupart, ne l'avaient pas vu, même s'ils disaient qu'ils l'avaient vu, mais qui, ça conquiert les imaginaires et ça fait parler au-delà des gens qui ont vu. Et donc, évidemment, ça donne envie de s'abonner, ça donne envie de savoir. Et je crois qu'il y a vraiment une politique très forte qui fait qu'encore aujourd'hui, quand on va voir une plateforme de streaming, d'après le dernier sondage du CNC en France, c'est à deux tiers du temps, on va voir Netflix d'abord avant d'aller voir les offres des autres plateformes.
Alors, entre parenthèses, pour qu'on sache de quoi on parle, Squid Game est une série coréenne, c'est ça, qui met en scène un jeu mortel, mais vraiment mortel premier sens du terme, extrêmement violent, voire traumatisant, mais qui est aussi une métaphore de l'appauvrissement des peuples, notamment le peuple coréen, parce que pour avoir de l'argent, on trouve le seul moyen de vivre, c'est de se lancer dans ce jeu mortel, épouvantable, dramatique, d'une noirceur absolue.
C'est les jeux du cirque et c'est la concurrence exacerbée, mais c'est aussi, et en écoutant votre récit, un reflet de la politique de Netflix aussi, où seuls les plus performants sont gardés.
Ce darwinisme.
Et voilà, c'est le darwinisme porté évidemment à son paroxysme et avec un déferlement de violence, mais qui est, là encore, c'est dans le contexte coréen ou asiatique de façon générale, ça fait aussi référence au film de John Woo et à toute cette violence qui est tellement extrême qu'on n'y croit plus vraiment.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc
un peu comme Tarantino.
Oui, mais Tarantino qui est nourri de cinéma hongkongais. Donc il y a quand même cette la violence au cinéma, le gore et les effusions de sang, elles sont quand même aussi là pour qu'on n'y croit pas justement. Je crois qu'il y a des violences plus psychologiques et moins esthétiques qui sont peut-être plus marquantes et plus dangereuses.
C'est quand même extrêmement impressionnant. Est-ce qu'on sait quand la deuxième saison de Squid Game arrivera ?
Elle est annoncée, mais pour le moment, ça fait partie des secrets les mieux gardés de Netflix.
D'où vient l'appétence du public pour les séries, à votre avis ? Ça, vous avez dû y réfléchir longuement.
Oui, j'ai réfléchi longuement. Je crois que c'est ça vient de la littérature et du feuilleton. Je crois que c'est ce plaisir vraiment très enfantin, très anthropologique de la répétition et de la variation. Cette idée de retrouver du familier, mais avec toujours une petite variation qui va créer la surprise.
Bien sûr.
Et voilà, il y a vraiment quelque chose de profondément lié à l'enfance, à l'humanité, quand on pense à ces grands récits depuis Homère et probablement avant, ça fonctionnait aussi déjà sur la répétition et la variation. Donc je crois que c'est simplement un des derniers avatars de cette appétence profondément humaine pour un récit et un récit qui se déploie dans le temps.
Oui, ça c'est important. Parfois, on voit un film qui dure pas deux heures et demie. On se dit tiens, je serais bien resté dans cet univers. Donc c'est ce que apporte la série, le fait de rester dans un univers pendant des heures et des heures.
Oui, puis de plus en plus de films sont sériels. Hein, on peut penser au succès de Marvel mais aussi on peut penser que aller revoir un Almodovar, c'est aussi une consommation sérielle parce que on va voir une patte d'auteur. On va retrouver un univers avec des variations aussi. Donc je pense que et la littérature fonctionne comme ça aussi. On fonctionne comme ça. L'algorithme de Netflix fonctionne comme ça aussi, de nous proposer à la fois la même chose et en même temps quelque chose d'un peu différent. Et encore une fois, je crois que ça nous correspond profondément de ce que nous sommes et la façon dont on envisage le monde et que c'est pour ça que ça marche.
Alors, la concurrence avec le cinéma, évidemment, c'est l'affaire sensible de Netflix. Hein. Est-ce que c'est une concurrence déloyale ou est-ce qu'elle vous paraît saine, finalement, capable de soulever l'émulation ?
Je crois que ce que dit Edouard Baird dans le discours que vous avez diffusé au cours de votre récit est très juste. C'est que le cinéma, c'est un lieu. Le cinéma, c'est la salle de cinéma, c'est se retrouver, en réalité, ensemble, il le dit, mais surtout se retrouver avec des inconnus. Dans une salle fermée, dans le noir, et on passe effectivement 2h30, 3h avec la séance à regarder ensemble le même film. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de l'interruption permanente, des notifications, des téléphones portables, de plus en plus de gens ont des difficultés à maintenir leur attention pendant aussi longtemps. Et vous êtes comme moi allé au cinéma, les gens ne tiennent plus. En fait,
pourtant, les films sont de plus en plus longs.
Et les films sont de plus en plus longs.
Les Babylones, par exemple.
Les films sont de plus en plus lents. Les gens sortent leur téléphone portable, ça fait de la lumière, on se fait engueuler.
Il y a le bruit du paquet de pop-corn.
C'est très ancien. Mais je crois que il y a quand même. Ça traduit aussi une difficulté de plus en plus grande à être avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ça a été amplifié par le confinement. C'est aussi amplifié par les réseaux sociaux et le fait que les réseaux sociaux nous mettent en conversation avec des gens avec qui on est finalement d'accord, et que vraiment cette idée d'aller avec d'autres et de devoir donc bien se tenir, être poli, respecter des règles communes, c'est aussi une des difficultés. Et d'ailleurs, maintenant, les salles de cinéma proposent à des gens de louer en groupe pour être qu'avec des gens qu'on connaît, pour être avec ses amis, à profiter d'une salle de cinéma. Donc je crois qu'il y a là encore un changement d'usage et une réflexion plus globale à réfléchir à ce que ça veut dire être avec des inconnus dans un lieu clos. Et pour de plus en plus de gens, c'est devenu très difficile.
On en reparle après avoir écouté Hansa, Ma réalité. J'étais marcé de chaque enfant, le risque, oh non. J'ai pris cette life, sale. Je t'avais seulement quand je tease la night. Elle sort les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night, wow, wow, wow. L'être en haine, tout mes haineux. Si tu roules avec un haine, c'est que toi même t'as haine, wow. Un homme qui pense à pouvoir un jour monter sur ma tête. C'est un homme qui se trouve depuis un putain de maman sous mes pieds. Je vois la vie en or, mais j'ai dédié violemment. Mais ta petite tenue rose, baby daddy's coming home. Tout un tas de promesses dont je me suis jamais fait. On est pour le gain car on n'a jamais lié. Hey, oh, big step, pour que tout s'arrête, faudrait que Dieu m'arrête. Un tas de bénéfices, donc j'suis soupçonné. T'es là que c'est bitch, elle va te consommer. J't'ai marcé de chaque en pour le risque, oh non, non. J'ai pris cette life sale. J't'avais seulement quand je tease la night. Elle sort les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night, wow, wow, wow. Je me souviens de toutes ces nuits à regarder le ciel, en me demandant si quelqu'un m'entendait. En vrai, c'est tout ce que j'attendais, la vie de ma mère. J'ai grandi dans la violence, avec un joint de bœuf, j'ai appris à la romance. À 200 dans ma tête, pistole dans ma chambre. Ils vont te laisser tomber quand ils n'auront plus rien à prendre. Je vais venir avec un métal, on verra si je suis tendre. J'ai plus grand chose à dire, encore moins de choses à prouver. Et ceux qui veulent me nuire, ils savent où ils peuvent me trouver. Ce n'est que ma réalité. B-O-B-O-X réalité. Un tas de bénéfices, donc j'suis soupçonné. Belle à caisse, cette bitch, elle va te consommer. J't'ai marcé de chaque en vaut le risque, oh non. J'ai pris cette life, sale. J't'avais seulement quand je tease la night. Elle sort les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night, wow, wow, wow. Voilà, conversation autour de la table. Concernant les séries, Marjolaine Boutet, quand même, le confinement pour des plateformes, c'est vive la crise. Hein. Et il y a eu les chiffres, on l'a prouvé, c'était...
Alors, pour Netflix, pas tant que ça, en fait.
Tiens donc.
Les consommations d'écran, de façon générale, ont bien évidemment augmenté. Il y a eu un petit creux pour Netflix après, effectivement, le confinement. Je crois que surtout, c'était la difficulté de la sortie du confinement et de retourner dans les salles de cinéma qui a été compliqué pour beaucoup de gens. Les plus jeunes, apparemment, d'après les études, reviennent dans les salles de cinéma parce que il y a quand même ce plaisir de se retrouver.
Attendez, il y a le plaisir de voir un film sur grand écran. Ça, c'est quand même très important.
Mais bien sûr.
Parce qu'avec Netflix, si on le regarde partout, y compris sur des ordinateurs, vous vous rendez compte qu'on rétrécit de façon... J'ai envie de dire dramatique quand même, l'image, quoi.
Oui, alors les télévisions sont de plus en plus grandes et les images de meilleure qualité. Mais alors, là encore, le sondage du CNC montre que la plupart, la consommation de produits de streaming, on va dire, se fait à 85% encore sur une télévision.
Bon.
Et un peu moins sur un écran d'ordinateur et encore un peu moins sur le téléphone.
Ah oui, là c'est le confetti quoi.
c'est le confetti, mais c'est le confetti qu'on met près du visage et qu'on regarde dans l'intimité ou dans les transports. Ouais. Donc il y a cet aspect-là. Les images, oui, elles elles grandissent ou elles rétrécissent en fonction des écrans. Il y a des rétroprojecteurs aussi de plus en plus qu'on peut installer chez soi. La salle de cinéma, évidemment, elle garde un côté magique. Et on est au moment où nous parlons, il y a à Lille le festival Sérimania où on peut découvrir des séries dans des salles de cinéma.
Avec le son d'une salle,
avec le
formidable,
son d'une salle de cinéma et avec la réaction d'un public. Et je crois que c'est ça aussi qui est chouette au cinéma, c'est de s'émouvoir ensemble et de partager quelque chose ensemble. Mais pour ça, il faut retrouver il faut arriver à s'asseoir pendant 3 heures et à respecter ses voisins.
Voilà, et pas tomber sur le spectateur qui fait 2 mètres de hauteur.
Ah oui, non, mais ça...
Avec des larges épaules, parce qu'on a tout gagné. J'ai remarqué, moi, que ce soit une vue de l'esprit, qu'il y a beaucoup de séries de moins en moins longues, qu'on appelle les mini-séries. Ça correspond à un besoin réel ?
Oui, parce que très souvent, les gens comme me disent « Ah non, je ne regarde pas de séries parce que ça va me prendre trop de temps.
Ouais. »
Et effectivement...
Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs.
Ben, ça dépend, puisqu'il y a des séries qui, finalement, avec des films qui durent maintenant 2h45, 3h, 3h20, finalement, 5-6 épisodes qui durent 40 minutes, voilà, ça dure pas
beaucoup plus
des durées équivalentes. Donc, oui, ça correspond aussi à l'envie d'avoir une histoire bouclée, qu'on peut regarder en une nuit, une soirée, un après-midi, un week-end. C'est aussi ça qui a changé avec Netflix, c'est que les séries, auparavant, c'était l'attente. L'attente du prochain épisode et la conversation commune à qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, effectivement...
C'est le binge-watching.
Non, justement, l'interruption de l'attente. Vraiment, c'est la diffusion hebdomadaire. On parlait de Belphégor il y a quelques mois ensemble. Belphégor avait créé une attente du prochain épisode et de la résolution. Aujourd'hui, avec Netflix, effectivement, vous pouvez avoir 6 épisodes et donc savoir la fin de l'histoire dans la journée.
Oui, absolument.
Et on perd, on perd cette attente, on perd cet attachement, et on perd aussi ce qu'on a au cinéma, mais ce qu'on avait, ce qu'on a à la télévision de flux, c'est-à-dire le fait de voir la même chose au même moment, et donc de pouvoir en parler le lendemain, le surlendemain, de pouvoir y réfléchir et de pouvoir se projeter dans la suite, parce que là aussi la difficulté, le problème, c'est que ces séries Netflix, on les oublient aussi vite qu'on les a consommés souvent.
Bon, alors il reste les algorithmes qui pointent vos goûts. Et à quel point façonnent-ils nos goûts ? Parce qu'ils les pointent, pourquoi pas, mais qu'ils les façonnent, ça peut être plus gênant.
Oui, c'est effectivement toute l'interrogation, et on est de nombreux chercheurs à travailler là-dessus, justement sur les effets de l'algorithme. Mais c'est vrai pour Netflix, c'est vrai pour les réseaux sociaux, et tous ces phénomènes qui nous proposent toujours à peu près la même chose. Et donc, est-ce que, là encore, ça ne nous empêche pas de nous confronter aux différents, de nous confronter à ce qui nous plaît pas ? Parce que, là encore, dans la culture, la consommation culturelle, le fait d'aller au cinéma, c'est aussi prendre le risque de voir un film qui va pas nous plaire. Et savoir ce qui nous plaît pas aussi, c'est aussi important. Je trouve que être confronté toujours à du confortable.
Une politique de l'offre plutôt que celle de la demande, en quelque sorte. Merci infiniment, Marjolaine Boutet.
Merci.
Donc, je rappelle le titre de votre livre à sortir à Noël, 1000 séries à voir sans modération chez Glénat. Merci, au revoir.
Merci.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Netflix, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Marie Potier.